Bonjour Agnès Langevine, merci d'être au rendez-vous de cette matinale. Vous êtes donc deuxième vice-présidente de la région Occitanie en charge de la délégation Climat, Pacte Vert et Habitat Durable. Et vous revenez de la COP26, vous étiez à Glasgow il y a encore quelques jours. Je sais que vous êtes assez fatigué, donc merci encore d'être au rendez-vous ce matin. La COP26 se termine vendredi, je le rappelle. Et après y avoir assisté durant votre séjour, après avoir assisté aux diverses interventions, discussions qui ont eu lieu, quel est votre sentiment général sur cette conférence 2021? Est-ce que vous y avez trouvé des motifs d'espoir et est-ce que vous pensez qu'elle pourrait déboucher sur des mesures à même de faire évoluer les choses dans le bon sens pour lutter contre le réchauffement climatique au niveau international?
Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Effectivement, quand on rentre de la COP26, nous sommes traversés et je suis traversée à la fois par quelques frustrations sur des engagements qui ne sont pas encore à la hauteur de l'accord de Paris, mais surtout de ce qu'il faut mobiliser pour contenir la hausse des températures dans une séquence temps qui est celle des 8 prochaines années, mais aussi par beaucoup d'espoir et surtout de motivation, parce que c'est un moment de rencontre forte avec une jeunesse extrêmement mobilisée, avec également la représentation qui était très très nombreuse des pays les plus vulnérables, des peuples autochtones, des femmes aussi, c'est-à-dire toutes celles et tous ceux qui peu émetteurs dans l'histoire, subissent aujourd'hui de plein fouet l'impact du réchauffement climatique, que ce soit en termes là de famine comme à Madagascar où c'est terrible, ou bien évidemment en termes de disparition comme c'est malheureusement l'avenir très prochain en 2030 de quelques insulaires.
Est-ce qu'il y a, parmi les interventions ou les propositions que vous avez pu entendre, il y en a quelques-unes qui vous ont particulièrement marqué?
Qui était très visible, j'ai envie de dire, et très motivant aussi pour la collectivité que nous sommes, une région, c'est de voir la mobilisation effectivement des collectivités, des échelons locaux, en parallèle évidemment de l'engagement des États, mais de dire ben nous sommes la bonne échelle pour agir et agir pour s'adapter, pour protéger, pour finalement inclure aussi les plus vulnérables. Et la question de la justice sociale était extrêmement forte. Alors oui, beaucoup de solutions en termes d'adaptation, que ce soit sur le volet de l'énergie, mais surtout sur l'aménagement du territoire, l'aménagement des villes, pour évidemment lutter contre les îlots de chaleur, pour préserver la santé. Bref, tout un panel de solutions qui sont assez connues finalement des décideurs, qu'ils soient publics ou privés, mais que nous ne mobilisons pas suffisamment. Cela suppose des investissements majeurs, de la solidarité des pays du Nord à l'égard des pays du Sud. Les accords de Paris, c'était un engagement de plus de 1 000 milliards de dollars chaque année. Et puis, nous n'avons pas été, nous, les pays du Nord, au rendez-vous de cette solidarité. Et moi, j'ai été marquée par un des représentants africains qui nous disait, finalement, pour vous, ça reste une question conceptuelle, voire intellectuelle. Nous, c'est une question de vie ou de mort dans nos territoires, dans nos vies de tous les jours. Voilà, c'est de la famine, c'est des femmes notamment qui s'épuisent comme pour aller chercher les ressources à nous. Et voilà, donc c'est un sentiment vraiment de, comment dire, éthique même, qui nous oblige dans ce que l'on doit à ces pays du Sud qui ont subi finalement nos propres émissions. Donc j'ai participé à d'autres COP, mais je trouvais que voilà, la mobilisation de ces pays, de ces collectifs vulnérables aux impacts qui sont déjà très violents, nous ont remonté les bretelles, pour le dire, voilà, mais à juste titre. J'espère que les négociations, il reste encore quelques petits jours, pourront vraiment répondre à cette urgence, à ces urgences.
Alors, puisque vous l'évoquez, est-ce qu'on peut espérer vraiment que les pays émettant le plus de gaz à effet de serre, ils sont connus, hein, la Chine, les États-Unis, mais aussi à un degré moins de la Russie, l'Inde, est-ce qu'ils vont, selon vous, enfin jouer le jeu et contribuer à l'effort général? Est-ce qu'il existe des moyens de faire pression sur eux?
Alors là, évidemment, certains que vous avez cités ont brillé par leur absence. Hein. On peut rajouter aussi là l'annonce de maintenir l'exploitation du charbon par l'Australie. Mais il y a quelques avancées comme l'Inde qui, voilà, c'était pas forcément très attendu, mais a annoncé une trajectoire aussi de sortie du charbon et des fossiles. Alors, je pense que la meilleure, évidemment, le meilleur outil, hein, la meilleure pression que nous pouvons faire, nous, à notre place, c'est vraiment la mobilisation citoyenne, et elle existe. Elle est moins visible peut-être sur le plan médiatique, mais il y a un tas d'initiatives, des jeunes qui sont venus témoigner et qui prennent plus que leur part, c'est-à-dire à la fois évidemment l'alerte, le cri, mais aussi des mobilisations sur notamment tout ce qui tourne autour de la souveraineté alimentaire, de l'agroécologie. Voilà, et avec des solutions d'une sobriété peut-être qui n'est pas choisie par ces pays, en tout cas qui des solutions qui peuvent nous inspirer, parce que effectivement on pourrait aussi renverser et nous alimenter, nous sourcer de solutions très concrètes, très sobres, qu'ils ont pu mettre en œuvre dans leur territoire. Donc je pense qu'il faut aussi rééquilibrer ce rapport. Voilà, il s'agit bien sûr de la résilience de nos territoires, hein, dans notre vie de tous les jours, mais il s'agit aussi de la résilience de la planète. Donc voilà, nous devons vraiment trouver une gouvernance mondiale, internationale, pour lutter contre la crise climatique. Alors oui, après, il y a des outils diplomatiques, il y a des outils évidemment d'aide, surtout financiers. Ce que nous demandent ces pays, c'est de vraiment les rendre plus autonomes, parce que l'autonomie de ces pays, ce sera effectivement moins de dépendance sur ces grandes puissances voilà, exportatrices de fossiles comme la Russie notamment. Donc plus nos territoires seront autonomes, résilients, plus cette dépendance sera réduite. Voilà, et ce qui peut amener aussi ces grandes puissances à bouger.
Alors, il y a les discussions entre les États à la COP26, mais il y a aussi, et vous l'évoquiez, des associations, des ONG, il y a des représentants des industries fossiles, énergie fossile. Il s'est dit des choses en coulisses. Il y a une ONG, la Global Witness, qui a épluché la liste des délégations présentes à la conférence sur le climat. Et selon elle, je dis bien selon elle, hein, le lobby des énergies fossiles, qui sont les principales émettrices de gaz à effet de serre, serait mieux représenté dans les couloirs de la conférence que les pays les plus touchés par les conséquences du réchauffement climatique que vous évoquiez à l'instant. Est-ce que vous avez le même sentiment ? Est-ce que vous confirmez cette information qui est assez lourde de sens tout de même ?
Alors, l'information, je ne peux pas la vérifier, hein. j'ai pas enquêté, mais c'est vrai que voilà, on sent bien que le volet business, pour le dire aussi simplement, était très présent. Voilà, ensuite il y a des industriels, des acteurs économiques qui œuvrent pour cette transition énergétique. Je pense notamment la question de l'hydrogène était très très présente, très représentée, voilà. Mais c'est, si vous voulez, c'est le monde tel qu'il est. La COP est le reflet aussi de ce que nous pouvons vivre dans les rapports de force, mais aussi dans les partenariats que nous pouvons nouer avec les industriels, avec les activités économiques, parce que cette transition, c'est aussi, c'est très important, une opportunité en tout cas de muter, de développer une économie plus sobre en carbone, mais aussi en ressources. Donc de toute façon, il faut que cette transition englobe aussi tout le secteur économique. En Occitanie, c'est le pari, l'engagement et la mobilisation de Carole Delga, la présidente de la région, de proposer ce pacte vert, qui est vraiment ce cadre qui va concilier économie et écologie, écologie et justice sociale, et qui va nous amener à co-construire ce nouveau modèle de développement qui est absolument nécessaire, mais qui doit vraiment être très inclusif, générer des emplois, embarquer les jeunes, les former à ces nouveaux métiers. Donc on ne peut pas Voilà, cliver, on ne peut pas de toute façon faire sans. Alors, les lobbyistes existent, c'est pas pour autant que les responsables et les décideurs sont dupes aussi. Voilà, donc, vous savez, dans les différentes instances nationales ou européennes, ces lobbies. Voilà, mais ce qui est intéressant, enfin, j'ai lu aussi un article sur ce sujet, c'est que c'est mis à jour et que, voilà, on connaît l'identité aussi des lobbyistes. Après, il y a les ONG sont aussi des lobbyistes, hein, donc des influenceurs positifs. Quand on se mobilise aussi, c'est pour influencer et générer évidemment des trajectoires différentes. Donc, voilà, mais. Ce qui se passe à la COP26, effectivement, est à l'image de ce secteur en mutation. Alors, si on veut être un peu cynique, on peut se dire que c'est dans les moments où on a le plus peur de perdre, finalement, qu'on se mobilise pour garder ses acquis. Donc voilà, le secteur, en tout cas, des industriels du fossile sont à la fois sous le regard. Beaucoup d'ONG travaillent et sont très vigilants sur la réalité aussi de leur engagement, font beaucoup de vérifications sur évidemment leur activité, et même si certaines restent encore trop peu démocratiques, mais enfin on avance. Donc de toute façon la tonalité doit être celle de la mobilisation et de toute façon de l'espoir, hein.
Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, vous évoquiez ce que fait la région pour lutter contre le réchauffement climatique. Et aujourd'hui, à 11h, à l'hôtel de région, il y a une conférence de presse. Carole Delga va y prendre la parole, la présidente de région, pour y présenter les solutions, les actions mises en place par la région Occitanie pour mener concrètement cette lutte. Vous serez à ses côtés, bien sûr. Sans dévoyer ce qu'elle va annoncer, est-ce que vous pouvez nous donner les grands axes de la politique de la région pour la transition écologique, notamment dans le cadre de ce que vous appelez le pacte vert ? Vous l'avez déjà un petit peu ébauché, mais est-ce que vous pouvez préciser les principales lignes ?
Alors, ce pacte vert, hein, c'est évidemment un plan à la fois de relance, hein, donc suite à la crise Covid, mais qui justement a voulu ne pas reprendre ce monde d'avant et proposer un nouveau modèle de développement, je le disais, sur tous les secteurs. C'est-à-dire que la politique de transition, la politique climatique doit être finalement surplombante avec l'ensemble des politiques sectorielles en termes d'aménagement du territoire, de développement économique, de tourisme, de formation, d'agriculture. Voilà, il faut vraiment que tous nos choix, toutes nos dépenses soient orientées, en tout cas compatibles et cohérentes avec donc cette mobilisation pour lutter, mais s'adapter aussi au changement climatique. Et donc, ce pacte vert était fortement inspiré de la Convention citoyenne pour l'Occitanie, hein, donc des citoyens qui ont travaillé à des mesures très concrètes, parce que nous voulons une transition écologique concrète, des solutions positives, et dont les citoyens peuvent percevoir les bénéfices, hein, en termes de santé, en termes de logement, avec notre service public de la rénovation énergétique par exemple, avec le revenu écologique jeune qui va permettre aux jeunes qui souhaitent s'orienter sur ces parcours de formation au métier vert puissent avoir un revenu décent. Voilà, c'est un projet à la fois très enthousiasmant, mobilisateur, tourné vers l'avenir, de confiance, et qui donc doit vraiment embarquer tous les acteurs de la région avec voilà ce pilier de justice sociale, de climat, mais aussi d'emploi et de bien-être finalement pour nos concitoyennes et nos concitoyens.
Alors, il y a dans la lutte contre le réchauffement climatique, il y a un point qui fait de plus en plus question, c'est l'éolien. Quelle est la politique que compte mener la région dans les prochaines années dans ce domaine ?
Alors nous avons engagé en 2016 une trajectoire très ambitieuse, hein, un scénario pour nous mener à cette région à énergie positive, qui consiste très concrètement à couvrir l'ensemble de nos consommations d'énergie par de la production d'énergie renouvelable. Et donc effectivement nous mobilisons tous les vecteurs énergétiques, ce soit toutes les solutions, que ce soit le photovoltaïque, l'hydroélectricité qui est très présente en Occitanie, mais aussi l'éolien, qu'il soit terrestre, mais aussi marin, puisque nous soutenons à la fois le déploiement des futures fermes pilotes d'éolien offshore, hein, au large de Gruissan, Le Cat, Le Barcarès, mais aussi un débat, enfin, le débat public s'est terminé le 31 octobre dernier, donc le futur de fermes commerciales d'éolien offshore, donc en Méditerranée. Donc il y a des bons projets éoliens qui concilient tous les enjeux, à la fois de biodiversité, de gouvernance, avec de l'implication citoyenne, de paysage, qui sont vraiment des projets de territoire. C'est le type de projet que nous soutenons et que nous encourageons. C'est vrai qu'il y a des projets voilà, qui ont été menés sans grande concertation par des développeurs, certains des fonds de pension. Donc le modèle aussi est à réinterroger. Voilà, mais il existe de projets, et dans ce scénario région à énergie positive, nous avons évalué, en tout cas en termes de puissance, vraiment installée à progresser sur le développement de l'éolien.
Eh bien.
L'éolien, c'est quelque chose de visible. Voilà, on connaît le débat actuel autour donc de la relance du nucléaire en France. Voilà, mais ça se posera de la même façon, hein. Où est-ce qu'on va implanter
On va devoir, excusez-moi, on va devoir rendre l'antenne, donc je vous remercie, hein, pour toutes ces précisions et merci encore d'avoir été avec nous ce matin, Agnès
Merci,
Langevin.
merci beaucoup.
Je vais vous souhaiter une très bonne journée aux côtés de Carole Delga, la présidente de région, qui, je le rappelle, s'exprime aujourd'hui à 11h lors d'une conférence de presse où elle va présenter les actions mises en place par la région Occitanie pour mener la lutte contre le réchauffement climatique sur notre territoire. On aura sans doute l'occasion d'en reparler prochainement sur Radio Présence.